Bonjour et bienvenue, je suis actuellement en direct sur Skype avec Choutak. Salut Choutak.
Salut Olivier.
Ça va, t'as la pêche?
Ouais, la pêche, ouais.
Donc Choutak, tu es le créateur du blog en anglais The Design Sketchbook, hein, tu es membre de la formation Blogger Pro. Et j'ai voulu t'interviewer parce que tu m'as dit récemment « Ah, Olivier, grâce à la formation Blogger Pro, bah, mon blog il cartonne, j'ai fait, je crois, 60 000 dollars hein, sur les 12 derniers mois, c'est ça que tu m'as dit ?»
C'est ça, les 6 derniers mois.
Les 6 derniers mois, ouais, donc c'est vraiment pas mal. Bah voilà, je me suis dit, faisons une interview pour partager un petit peu ça. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement quel est le concept de The Design Sketchbook ?
Ok, donc thedesignsketchbook.com, c'est à la base, donc c'est un blog. Donc, qui permet de partager donc, dans le domaine du design produit avec des étudiants ou des professionnels comment mieux dessiner en fait, comment mieux représenter ces idées sur papier et pouvoir mieux les communiquer, tout simplement.
D'accord, donc c'est vraiment conçu pour les professionnels ou futurs professionnels du design.
C'est ça, ouais.
Typiquement, j'en sais rien, moi, je veux créer, je dis n'importe quoi, un mug ou un écran ou un appareil photo, il faut quand même qu'il ait un design sympa. Je fais appel à un designer professionnel pour qu'il ait une belle tête.
C'est ça, parce qu'effectivement, en design produit, ce qui est très important, c'est la phase de recherche. Et c'est là où est-ce que justement on fait appel au dessin, tout simplement au crayon. Un simple crayon permet justement de mettre sur papier très rapidement toutes ces idées et pouvoir justement communiquer très facilement, parce qu'effectivement, avec les mots, souvent, ne suffisent pas. Et on a besoin donc de faire appel au dessin, et voilà.
D'accord, alors. Comment tu as eu l'idée de créer ce blog et qu'est-ce que tu faisais avant ?
D'accord, qu'est-ce que je faisais avant ? Déjà, première chose, comment j'ai eu l'idée, c'est grâce à ta formation, parce qu'effectivement, tu disais qu'il faut partir à partir d'une passion que l'on a, donc chose que je suis complètement convaincu aujourd'hui pour réussir dans le blogging. Et qu'est-ce que je faisais avant ? Donc, j'ai fait une école de... déjà, au niveau école, donc j'ai arrêté l'école assez tard. J'ai arrêté à 27 ans. Donc j'ai passé pas mal de temps à l'école, donc j'ai commencé par des études de commerce, 2 ans, 1 an en gestion de multimédia pour une 3e année, et ensuite donc, je voyais qu'en fait ça me plaisait pas tant que ça, et j'ai décidé donc de suivre ma passion déjà à ce moment-là, et je me suis inscrit dans une école de design pour 5 ans. Donc je suis revenu de bac plus 3 à bac plus 0, et j'ai refait 5 ans.
Donc là t'as un bac plus 3, un bac plus 5. T'as 2 bacs. Ok, donc tu as suivi une formation de designer professionnel. Et donc, alors, ok, donc tu sors de cette école. Est-ce que t'as pratiqué un petit peu ton métier ou pas du tout?
Alors, après ça, je suis parti à l'étranger travailler en Allemagne, donc à Adidas pour du footwear, de la chaussure. Et ensuite, une fois que je suis revenu en France, je savais déjà que je voulais repartir travailler à l'étranger. Donc je suis allé donc en Asie du Sud-Est, à Singapour, pour tenter ma chance. Et c'est là que j'ai trouvé donc un travail à Charles & Keith, qui est une boîte de chaussures à Singapour, et qui m'a envoyé en Chine travailler pendant 3 ans. Puis je suis revenu à Singapour pendant encore 3 ans, retravailler avec eux. Et puis on va dire que j'ai travaillé là-bas pendant 6 ans, et pendant 5 ans j'ai adoré mon travail. Et puis j'ai mis 1 an à me décider à démissionner et partir pour de nouvelles aventures, puisqu'effectivement je me disais que si jamais je restais plus longtemps, je resterais certainement... je sais pas, en fait, le truc c'est que j'avais peur d'être trop confortable, donc du coup j'ai quitté mon travail pour de nouvelles aventures, et ça a été l'aventure du blogging.
Excellent, parce qu'effectivement, c'est vraiment intéressant que tu aies eu cette démarche consciente de dire il faut absolument que je sorte cette zone de confort, sinon je vais y rester toute ma vie.
En fait la zone de confort est pas si... facile à comment dire à supporter entre guillemets. Par exemple, ma mère me demandait est-ce que ça va au travail, est-ce que c'est difficile. C'était sa question. Je dis maintenant non, parce qu'en fait au bout de 6 ans la boîte s'est bien structurée, donc les choses étaient bien faites et ça a fini par être un petit peu routinier en fait. Et au final,
donc tu t'ennuyais. C'était le signe pour toi qu'il fallait te lancer dans autre chose.
Je pense, ouais. À ce moment-là, je pensais qu'il fallait vraiment couper un peu le... je voyais pas comment évoluer, en fait, une fois là-bas. C'était arrivé à un stage, à un moment où, je finissais par me tourner les pouces, en fait. Et au lieu de rester là-bas et de faire du Facebook ou du Google ou du YouTube tous les jours, j'ai préféré partir, en fait.
D'accord. Alors, c'est à ce moment-là que tu t'es inscrit à la formation Blogger Pro. Tu avais déjà cette idée, non ?
Je me suis inscrit un petit peu avant. En fait, c'est... ça a été une période, pendant justement cette année, avant que je décide à partir, je m'étais intéressé à tout ce qui était liberté financière. Donc l'idée, c'est que j'aime voyager, j'aime justement avoir cette liberté de me déplacer, et je suis plus, même d'ailleurs, plus intéressé par la liberté géographique, en fait. C'est de pouvoir travailler là où je veux, enfin, de pouvoir vivre où je veux. Et comment ça s'est fait? C'est justement en passant par toutes ces expériences que je me suis aperçu que je n'étais pas si libre que ça. Bon, en fait, l'idée, c'est que quand j'étais étudiant, je faisais tout mon possible pour avoir des expériences à l'étranger. Je suis parti faire un échange universitaire à Los Angeles, je suis parti faire un stage au Japon. Ensuite, donc, je suis parti travailler à l'étranger. Et tout ce système-là, en fait, que j'ai mis en place, c'était une sorte de, pour moi, c'était un bon plan, en fait. C'était de partir à l'étranger et être payé en même temps. C'était ça mon idée
D'accord.
de liberté. Et ensuite, donc après donc, plusieurs années de travail, je me suis aperçu que c'était pas si libre que ça. Par exemple, particulièrement quand j'étais justement dans mon ancienne boîte, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est pareil partout, mais c'est que quand ils ont décidé de m'envoyer en Chine, c'était pas forcément un choix. Enfin, je veux dire, j'ai accepté, donc ça, c'est effectivement c'est un choix parce que je l'ai accepté. Mais je veux dire, le moment où est-ce que je voulais prendre des vacances, forcément, il faut en faire la demande. Et ma copine habitait à Singapour, donc je pouvais pas la voir autant que je le voulais, par exemple.
Oui, tu avais une liberté de salarié. Bon, tu avais un bon job, mais tu restais salarié, tu n'avais pas une liberté totale.
Exactement, je veux dire, j'étais là-bas, j'étais en Chine, c'était dédié pour le travail. Je me levais, j'allais au travail, je rentrais, mais par contre, j'adorais mon travail. Donc c'était génial, donc c'est pour ça que c'était. Je veux dire, c'était agréable. Mais au bout d'un moment, d'un point de vue personnel, ça devenait un petit peu plus dur, quoi. Parce qu'effectivement, en fait, c'est que où que je sois sur Terre, je suis loin de mes proches, en fait. Je suis en Chine, je suis loin de ma copine, je suis à Singapour, je suis toujours loin de mes parents et de mes amis. Et vice-versa, en fait, c'est qu'on est toujours limité à un agenda qui n'est jamais celui qu'on a conçu soi-même. C'est toujours tout simplement à celui des besoins de la boîte. Et il faut demander ses vacances, il faut poser ses jours de congé, etc., etc., etc.
D'accord.
Mais voilà, donc c'est finalement, même ma liberté n'était pas si libre que ça. Et au final, je finissais par me sentir limité, en fait. C'est des choses qu'on adore au début. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'au début, on pense que c'est cette... qu'on nous donne une chance de voyager. Donc c'est génial, effectivement, c'en est une. Par exemple, 2 ou 3 fois par an, il y avait des voyages où on allait au Japon, en Italie, à Londres, etc., pour on appelle ça des business trips. Donc c'était génial, je pouvais voyager, effectivement. Mais au bout d'un moment, au bout de tous les ans, on fait toujours les mêmes voyages, on fait toujours les mêmes itinéraires, ça devient toujours routinier. On s'ennuie toujours de tout, en fait. Et la vie reste toujours cadrée par la boîte pour laquelle on travaille. Donc c'est juste ça qui a fini par peser, en fait.
Wow. Ouais, donc tu t'es dit, donc c'est à ce moment-là que l'idée peut-être d'avoir un blog sur le design, ça te permettrait d'avoir le meilleur des deux mondes, donc de faire à la fois ce qui te passionnait, mais en ayant cette liberté à laquelle tu aspirais.
Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que pour moi, le blog, effectivement, ça me permet d'avoir cette liberté, mais à terme. Ce que j'aimerais, c'est que ça me permette effectivement d'avoir une liberté financière et géographique, mais je suis sûr qu'au bout d'un moment, peut-être dans, je sais pas, dans 2 ou 3 ans, je sais pas, je continuerai toujours le blog, mais je pense que je retournerai à la vie salariée. Pourquoi? Parce que dans le
Ah oui.
design, en fait, il y a des projets que j'adore. En fait, c'est ça, c'est que l'idée, c'est que même si, admettons que je retourne dans une boîte, ce sera une boîte qui me plaira à 150%. Ce sera un projet que je kifferai énormément, quoi.
Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu choisiras pas un emploi parce que tu en as absolument besoin pour manger. Tu seras au contraire libre de ne pas prendre d'emploi pendant autant de temps que tu veux, mais tu pourras choisir uniquement ce qui te fait kiffer.
Ouais, on peut dire ça. En fait, dans ma tête, c'est plus. En fait, j'ai toujours choisi les emplois pour lesquels je travaille par passion, en fait. J'ai jamais, par exemple, envoyé des CV à 1 million de personnes, je l'ai jamais fait. Juste quand j'étais étudiant. En première ou deuxième année. Mais suite à cela, une fois qu'on rentre dans un domaine qui nous passionne, donc particulièrement quand j'étais dans le design produit, j'ai toujours postulé pour des boîtes qui me passionnent. Et c'est plus dans l'idée que je serai libre de partir quand je veux, en fait. C'est que si jamais ça ne me plaît pas pour X raisons, ou qu'il y a une pression au boulot ou des valeurs qui ne me plaisent pas, admettons, que ça peut être vice-versa, hein. Peut-être que moi je ne leur plais pas, etc. Mais je serai libre de partir à tout moment, effectivement. Ouais. C'est juste de ne pas faire durer la.
Alors c'est intéressant, tu vois, bon, quand on devient blogueur professionnel ou qu'on a cette liberté, on peut l'utiliser de tas de manières différentes. Je crois que tu es le premier blogueur pro de la formation que je connaisse qui me disent, ah, au fait, avec cette liberté, bah, je prends la possibilité de redevenir salarié. Mais effectivement, dans ton cas, ça se comprend parce que c'est vrai que tu peux pas bosser sur des projets immenses si tu es tout seul dans ta petite boîte, à moins que peut-être que tu deviennes freelance. Je sais pas si c'est possible dans ce domaine-là. Mais voilà, donc c'est intéressant. Ça montre que quand on devient libre, voilà, on passe pas. Ça veut pas dire qu'on va passer toutes ses journées à la plage, hein. C'est-à-dire qu'on va surtout se concentrer sur ce qui nous fait vibrer, ce qui nous remplit de l'intérieur, ce qui vraiment fait que ben on kiffe la vie, tout simplement. Et pour toi, c'est le design. Alors, parlons un petit peu des débuts de ton blog. Donc, tu t'es inscrit à Blogueur Pro. Est-ce que tu as démarré immédiatement ton blog ou ça a mis un peu de temps?
Alors, je sais plus exactement. Je crois que je sais plus exactement. C'était quand je me suis inscrit avant de démissionner, mais c'était pas très longtemps avant. J'ai démissionné en mai 2014 et ensuite je me suis donné 5 mois pour voyager, en fait, tout simplement, vraiment reprendre de la liberté. Donc je suis parti en Thaïlande, je suis parti au Vietnam, Laos, et pendant ce temps-là, donc je me suis dit, pendant ce temps-là, je vais cogiter l'idée du blog, en fait, le sujet de mon blog, parce que je savais pas trop encore sur quel sujet j'allais me pencher. Je savais que ce serait sur le design, mais après ce serait du produit, de la mode, de la chaussure plus ou moins spécifique. Enfin, je ne savais pas exactement sur quel thème j'allais me pencher. Donc du coup, on faisait des coachings communs avec toi, ça avait commencé. Donc moi j'étais en Thaïlande à ce moment-là. Il était 1h du matin et le lendemain j'avais un cours de Muay Thai et je faisais le coaching commun avec toi.
Donc tu t'avais un cours de boxe thaï en fait?
Ouais, c'est ça, ouais.
Waouh. Donc motivé quand même, motivé, ouais.
Bah ouais, c'est des choses qu'on peut pas, enfin, on peut pas faire quand on est salarié. On peut pas prendre un mois de cours de Muay Thai, c'est impossible. et là, je me suis donné effectivement cette chance de le faire. Et ça a été un truc qui était pas du tout décidé, hein. J'étais juste en Thaïlande et puis putain, ça c'est cool. Et puis hop, on y va, c'est parti. Et voilà, et puis je suivais les cours vis-à-vis en coaching commun avec toi une fois par mois.
Donc t'as laissé mûrir l'idée.
Ouais, c'est ça.
Et au bout de 5 mois, tu crées ton blog.
Au bout de 3 mois, finalement.
Au bout de 3 mois.
3 mois, j'ai fini par pas me lasser, mais j'étais fatigué de voyager. En fait, je voyage depuis un bon moment déjà. Mais là, c'était un petit peu intense. Et du coup, je me suis dit, je vais me poser. Je suis parti au Vietnam pendant 2 mois. Donc, j'ai pris un appartement au Vietnam pendant 2 mois. Et je me suis posé pour commencer le blog là-bas. Donc ça a été mon but, c'était de démarrer le blog au Vietnam.
Waouh, ok. Alors bon, là, ça montre bien ce que permettent les nouvelles technologies aujourd'hui. Je veux dire, tu as suivi la formation, une formation en français de l'Asie. Tu continues, toi-même, tu es français, hein, mais tes parents sont d'origine chinoise ou singapourienne, c'est ça?
Chinoise.
Ouais, chinoise. Donc voilà, déjà ça montre que le monde est plat aujourd'hui, qu'on peut être à l'autre bout du monde et continuer à choisir ses sources d'influence dans une langue qu'on maîtrise. Ok, donc tu lances ton blog. Donc tu as suivi la méthode Blogueur Pro pour valider le sujet, t'assurer qu'il y avait un potentiel économique. Déjà, alors quelque chose d'intéressant, tu es un des rares membres de Blogueur Pro qui a un blog en anglais plutôt qu'en français. Pourquoi tu as choisi cette langue-là? Parce qu'il y avait un plus grand marché potentiel?
Oui, oui, carrément, parce que je pense que si tu comptes le nombre d'écoles de design francophones, enfin, je les ai pas comptées, mais je pense pas qu'il y en ait énormément, quoi. Ça doit peut-être se compter sur les doigts de la main. Je sais pas.
Tu t'es dit que la majorité des étudiants, des gens qui sont intéressés, qui sont dans ce milieu-là, de toute façon, parlent anglais et font des recherches en anglais.
Si, ça. Donc, je l'ai fait en anglais, puis je me suis dit, bon, bah, en espérant que les Français, enfin, le marché français suivra malgré tout. C'est ce que je me suis dit.
Bon, et apparemment, en tout cas, t'as fait un bon choix puisqu'aujourd'hui, ça marche très bien. Alors, raconte-nous un petit peu les débuts. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des choses… Est-ce que tu t'attendais à avoir un succès plus rapide que ce que t'as eu ou moins rapide? Comment ça s'est passé?
Alors, le succès, je sais pas. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les choses arrivent sans qu'on les demande. C'est qu'une fois qu'on fait les choses… Ben, on rencontre des gens, enfin c'est virtuel puisque c'est pas internet, il y a d'autres personnes qui sont sur internet, qui sont intéressées par le design et qui découvrent notre blog et qui nous contactent. Par exemple, il y a un professeur aux Pays-Bas qui m'a contacté et du coup, ben, il m'a demandé de faire une interview avec lui aussi et il est très high-tech en fait. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il m'a demandé de faire une interview sur, par Skype avec, devant sa classe et du coup, j'ai découvert qu'il avait mis un écran géant dans sa classe et du coup il y avait ma tête énorme devant sa classe auquel ses élèves pouvaient me poser des questions, quoi. Donc ça c'était cool.
C'est énorme, ouais, excellent.
Oui, en fait, c'est, en fait ça c'est pas un succès financier ou quoi que ce soit, mais c'est un succès de qui permet d'avoir un relationnel et qui fait que même si c'est virtuel, il y a toujours un rapport humain derrière. Donc, et c'est ça qui me plaisait, en fait. Et du coup, au départ, effectivement, c'est très dur, parce que comme tu parles de la traversée du désert, il se passe pas grand-chose, il n'y a pas d'interaction, il n'y a que les copains qui connaissent le blog. Mais voilà, quoi, et tout le monde dit que c'est bien, et puis voilà. Mais une fois qu'il y a des gens effectivement, qui sont du domaine du design, autant des débutants ou expérimentés qui nous disent, qui apprécient ce qu'on fait, ça donne beaucoup de motivation, effectivement, à continuer.
Et alors, qu'est-ce qui a commencé à te… Donc, au début, comme tu dis, traverser le désert, il n'y a pas grand monde. C'est normal, quand on démarre un blog, on fait du boulot et il n'y a pas de résultat, mais il faut amorcer la pompe. Est-ce que c'est venu progressivement? Est-ce qu'il y a des actions en particulier que tu as fait qui ont fait la différence et qui ont commencé à t'amener du trafic?
Alors, il y a deux grosses actions, je pense. Alors, la première, c'est le challenge. Tu parles dans ta formation de déclarer un challenge, tout simplement, de donner à sa liste, enfin, à sa liste et à ses lecteurs, un challenge quelconque, enfin c'est à nous de le définir. Le mien, ça a été tout simplement un tuyau, c'est-à-dire un type, je sais pas, une astuce de design par jour pendant 365 jours, ce qui est pendant un an. Donc en fait, ce qui est quand même un défi assez monumental, mine de rien. Mais au début, quand on est motivé, on a tendance à voir grand et on se dit ouais, je vais le faire et ça va y arriver, et on va y arriver. Donc au départ, j'étais au taquet. Effectivement, tous les matins, quand je me levais, je dis de quoi je vais parler aujourd'hui, etc., etc. Bon, à chaque fois, je trouvais quelque chose, c'était génial. Et puis au final, au bout d'un moment, on finit par se fatiguer. Il y a la vie aussi, on fait autre chose, etc., etc. Donc c'est moins régulier. Au départ, ça a été super régulier, mais ça devient un peu moins. Mais bon, au final, si je lis tout sur les 365 jours, ça a fait un article tous les 3 jours, en fait.
Donc, ce qui est... Parce que tous les 3 jours, tu faisais un article avec 3 astuces, c'est ça ?
Non, je veux dire, ma volonté, c'était de faire une astuce par jour.
Ah, mais tu as réussi 1 sur 3.
Quand on fait une moyenne, ouais. À la moyenne,
bon, c'est... Bon, est-ce que tes lecteurs t'en ont voulu ?
Pas du tout.
Voilà, c'est ça qui est intéressant quand on se fixe des challenges comme ça qui sont très ambitieux, même si on est en deçà de ce qu'on voulait. Les gens, ils sont très tolérants parce qu'ils se disent, bon, bah, t'as déjà quand même fait un truc de fou. Là, un article tous les 3 jours, c'est vraiment très bien. Moi, je recommande que le minimum, ce soit 1 par semaine. Donc là, ça veut dire qu'on avait un peu plus de 2 par semaine. Donc, très bien. Ouais. Donc, ça, c'est la première chose qui t'a aidé à réussir. Quoi d'autre?
Ouais. Alors, et la deuxième chose, bah, les liés, parce qu'effectivement, donc, ça m'a permis d'avoir plus de visibilité, en fait, d'être plus remarqué. Ce qui est justement le but du challenge, c'est d'attirer l'attention. Et il y a une page Facebook, bah, c'est toujours la même personne, donc le professeur de design des Pays-Bas, qui lui en fait, il n'est pas forcément très actif sur Facebook, mais il a une page qui avait à l'époque, il me semble, 1 million de fans en fait sur sa page.
Ah ouais, pas mal.
Ce qui est pas mal du tout. Ouais. Et il a partagé un article, en fait je ne le connaissais pas, hein, il a partagé un article à moi sur sa page. Et le jour de mon anniversaire, je me lève le matin et je vois, il était affiché... je crois 30 ou 40 000 likes Facebook sur ma page.
Oh my god!
Et le truc le plus étonnant, c'est qu'à chaque fois que je faisais rafraîchir la page, il y avait environ, je ne sais plus, 10, 15, 20 likes en plus. Et ça a duré pendant 3-4 jours.
Et, excellent, bah là c'était un beau cadeau d'anniversaire, ouais.
Ouais, j'y en ai parlé. Enfin, ça m'a mis un petit peu de temps en plus pour moi de découvrir pourquoi. Parce qu'au début, je ne savais pas que ça venait de lui, en fait. J'ai fait un petit peu de recherche. Et puis, j'ai retrouvé justement d'où ça venait. Et ça m'a totalisé à peu près un peu plus de 100 000 likes au bout de 3-4 jours, quoi.
Waouh! Ah oui, donc ça, c'est génial. Donc, ça montre aussi que, avec le web, quand on partage du bon contenu, on ne sait jamais qui on va toucher. Et on peut toucher quelqu'un dans un pays qu'on n'aurait même jamais imaginé. Là, c'est un mec des Pays-Bas, quand même. C'est impressionnant. Bon, c'est aussi le fait que tu publies en anglais. Mais même si vous publiez en français, vous pouvez toucher la francophonie mondiale. Il y a des centaines de millions de personnes qui parlent le français. Et vous allez halluciner de voir les gens que vous pouvez toucher dans le monde entier. C'est absolument incroyable. Ok, donc waouh, super. Donc là, il y a la bonne personne qui tombe sur toi et qui partage ton contenu parce que ton contenu est bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé? C'est déjà pas mal, hein.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qui m'ont aidé? Ouais. Bah, en fait, là, ce qui me vient en tête... Bah, les coachings communs, forcément, ça m'a beaucoup aidé.
Parce que dans Blogueur Pro, tous les mois, on fait un coaching tous ensemble. Hein.
Et effectivement, je te posais des questions, ce qui me permettait de me réaligner en fait avec le blog quand j'avais des doutes.
Et tu as participé très fréquemment, et ça je le dis beaucoup à mes élèves, c'est que j'ai vraiment remarqué une corrélation entre les membres qui participent souvent et les membres qui réussissent avec leur blog. Alors il y a des exceptions, hein, mais quand même. Et toi, tu fais partie de ceux qui ont participé vraiment activement, et en étant très motivé, comme tu dis, 1 h du matin en Thaïlande, avec un cours de boxe thaï juste après, enfin quelques heures après, faut en vouloir, tu vois, faut en vouloir.
Bah, en fait, tout ça, c'était naturel, en fait. Je sais pas, je sentais que c'était. Je me suis jamais forcé, en fait, à faire tout ça. Ça a été totalement naturel.
Parce que à la base, tu as choisi quelque chose qui te passionnait.
Ouais, je pense aussi. Il y a. D'une, effectivement, c'est le sujet. Et de deux, c'est l'envie de partager avec les gens, en fait. C'est agréable, en fait, mine de rien. Enfin, je sais pas. C'est que dans le domaine de tout ce qui est artistique ou design ou quoi que ce soit, en fait, y a pas mal de. Enfin, ce que je comprends, hein. C'est tout ce qui est protection intellectuelle, etc. Parce qu'on a tendance à, quand on connaît quelque chose, c'est pas forcément notre avantage de le partager. C'est parce que si on le partage, d'autres personnes vont prendre nos compétences, donc on ne sera plus forcément aussi unique. Et ça, c'est effectivement quelque chose où pas mal de personnes partagent ce genre d'opinion. Et ce qui n'est pas forcément la mienne, enfin ce qui n'est pas la mienne en termes d'apprentissage. Et c'est là-dessus qui je pense fait la différence, quoi. C'est que j'aime le blocking, je connaissais pas du tout, je suis pas forcément très fort en écriture ou même en élocution ou quoi que ce soit, et encore moins mon anglais est loin d'être parfait. Mais on y va quand même. Je veux dire, l'important, c'est que on partage les choses. Je fais plein de fautes d'orthographe dans le blog, ça passe quand même, et voilà.
Oui, parce que tu n'es pas bilingue en anglais.
Ah non, 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 je
Ça,
suis.
c'est intéressant. Voilà, ça, c'est aussi un très bon concept que partagent beaucoup de gens qui réussissent. C'est faut pas attendre d'être parfait pour agir parce que sinon, on attend toute sa vie. Personne n'est parfait. Et là, tu as juste agi. Et c'est génial. Donc, tu fais des fautes d'orthographe. Est-ce que tu fais des vidéos aussi?
Alors, la première vidéo, j'avais mis ma tête sur la vidéo et ça m'a pris toute une après-midi pour la faire. Ça franchement pas été facile. Et après, je me suis dit, vu que ça prend tellement de temps, je vais juste filmer mes mains ou alors sur tablette graphique enregistrer sur l'écran. Et voilà, après, j'enregistre ma voix par-dessus. Mais c'est un des défis que je veux remonter, que je veux relever, c'est effectivement de pouvoir mieux montrer mon visage. Parce que je pense que dans le blogging, c'est important effectivement de se montrer tout simplement, de se montrer comme on est. Et que les gens nous connaissent mieux. Voilà.
Wow, super. Donc tu démarres tu m'as dit mi-2014, hein, c'est ça à peu près, ton blog. Tu le développes tranquillement. Et donc, à partir de quand tu as franchi l'étape qui est l'étape un peu cruciale pour devenir blogueur professionnel, à savoir la création et la vente de ton produit?
Alors ça s'est fait en novembre dernier.
Donc, novembre 2015, donc ça veut dire un peu plus d'un an après la création du blog.
C'est ça, un an, presque un an, un petit peu moins d'un an et demi, quoi.
Ouais, bon, ce qui est… Ouais, on va dire dans la moyenne, on sait entre 12 et 18 mois souvent que les blogueurs créent leur premier produit. Ouais.
Ouais. Et c'est là, c'est à ce moment-là que je me suis senti prêt, en fait. Alors…
Donc, tu as fait ton sondage, tu as suivi la méthode Blogueur Pro.
Ouais, exactement,
Ok, tes lecteurs t'ont dit ce qu'ils voulaient.
ouais. Ouais.
Et alors, quelle est la formation que tu leur as, ou le produit que tu as créé pour eux?
Bah, alors, ce qu'ils ont choisi, c'est de… Sketch like a designer, enfin c'est de sketcher comme les professionnels, et donc du coup j'ai appelé la formation Sketch like the pro, sketcher comme les professionnels.
Donc sketcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire…
Un sketch, en fait, bah, un sketch c'est un croquis, c'est de dessiner de façon rapide, brièvement, et de justement pouvoir dessiner En fait, c'est une méthode qui permet de communiquer très rapidement, en fait. C'est que par exemple, admettons, on a un client face à face, dans un café ou quoi que ce soit, ou même dans un meeting, au lieu de perdre du temps, essayer de faire un dessin très léché, parfait, etc., on va juste dessiner l'essentiel. On va juste dessiner une idée sur papier qui permet juste de faire passer l'information. On ne s'intéresse pas à un dessin ultra parfait ou quoi que ce soit. On veut juste pouvoir communiquer et avancer le projet. Donc ça, c'est la premier grand pôle pour le sketch. Et le deuxième grand pôle de sketch du design de produit, c'est un côté plus esthétique, là où est-ce qu'on veut faire une présentation entre guillemets officielle, c'est-à-dire où est-ce qu'on veut vendre son projet. Par exemple, là c'est moins en amont mais plus en aval, c'est-à-dire quand on va avant la phase de validation d'un projet, où est-ce qu'on veut avoir un sketch qui permette d'être plus léché à ce moment-là, quoi.
D'accord. Alors, tu la vendais combien cette formation? Ou tu la vends toujours?
Alors, il y a deux tarifs, parce qu'il y a deux formules. La formule standard, c'est-à-dire je vends uniquement les étudiants ont accès aux vidéos de formation, elle est à environ à 300, 330, je crois, 329. Ouais, c'est ça, 329. Et ça, c'est la standard. Et la version VIP, c'est la version à laquelle je donne des corrections aux étudiants. Elle est à 529. Ouais, c'est ça.
529, ok. Et donc, tu as fait ton premier lancement de produit et c'est là où tu as commencé à générer ce chiffre d'affaires de 60 000 dollars.
Ouais, c'est ça.
Ok. Bon, parce que je rappelle, un lancement de produit, ça permet vraiment de générer l'équivalent souvent d'un an de chiffre d'affaires. Alors, ça peut tout dire et rien dire, cette expression, mais voilà, on va dire par rapport à la taille de l'entreprise et tout ça, en quelques jours, parce qu'on crée vraiment un événement un petit peu hollywoodien à la Apple, mais à notre échelle, et avec des outils du web, ce qui fait que ben, c'est accessible. Ok, donc voilà, tu as fait 60 000 dollars de ventes à peu près en une semaine.
Ouais, c'est ça.
Bon, en sachant que voilà, c'est des ventes, il y avait pas mal de ventes récurrentes, enfin, sur plusieurs mois, donc on va dire ça, c'est le chiffre de commande. Après, il faut voir ce que les gens payent réellement. Mais bon, ça t'a permis du coup de devenir blogueur professionnel. Alors, t'as fait péter le champagne, t'étais content?
Bah oui, enfin je sais pas en
J'ai
fait.
mis, ah oui, mais j'ai fait que 60 000 dollars, ouais, c'est pas mal. Bon.
Ah non, 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 je suis totalement, je suis ravi du résultat, c'est largement au-delà de mes espérances ou de ce que je pouvais imaginer. En fait, je m'attendais à rien. En fait, on ne sait pas en fait. La première fois que l'on vend un produit en ligne, c'est totalement nouveau. On ne sait pas si on fera 5 euros, 10 euros, 20
Non,
euros.
c'est vrai, ouais.
On n'a aucune idée. Je veux dire, il n'y a que des indicateurs. Genre combien de personnes répondent au sondage, combien de personnes on a dans sa liste, etc., etc. C'est que des indicateurs, mais passer à l'achat, c'est autre chose. Donc effectivement, ouais, ça m'a énormément surpris de voir que les gens étaient vraiment excités d'acheter le produit, ouais.
Bon, donc là, tu as réussi à faire un vrai chiffre d'affaires de petite entreprise. Mais du coup, pendant tout ce temps, tu as développé ton blog, tu continuais, tu avais un autre travail? Qu'est-ce que tu faisais?
Ah non, non, j'étais totalement consacré au blog.
Alors, combien de temps à peu près tu as travaillé par semaine dessus? Tu le sais?
Oula, non, c'est difficile à dire parce que c'est par période. Il y a des moments où est-ce que j'étais plus dessus que d'autres. franchement, je ne sais pas. Par contre, une fois que le produit est sorti, c'est beaucoup plus de travail puisqu'il faut développer le produit.
Oui. Mais est-ce que tu dirais que tu étais plutôt en moyenne à temps complet dessus, on va dire allez, 40 heures par semaine, ou plutôt à temps partiel, genre 10-20 heures?
Non, 10-20 heures.
Ouais, 10-20 heures. Voilà, bon, c'est l'expérience d'une majorité des blogueurs pro de la formation, c'est que on peut faire ça à côté d'une autre activité. Toi, en l'occurrence, tu n'en avais pas. Donc, tu avais suffisamment gagné ta vie dans ta précédente carrière pour pouvoir te permettre d'arrêter pendant.
Ah oui. J'ai fait
Ouais.
des économies avant de partir, effectivement. Bah, déjà un an avant de quitter, je savais déjà qu'il fallait que je prépare. Mais de toute façon, je garde toujours de côté, mais j'avais prévu le coup. Effectivement, ouais. J'aurais pas démissionné si effectivement j'avais pas d'économie à côté. Ce serait impensable.
Ok, bon, super. Alors, du coup, tu as des clients dans le monde entier maintenant?
Ouais, bah ouais, c'est cool. C'est génial. Et puis on parle tous en anglais, quoi. Même j'ai des clients français aussi d'ailleurs.
Super. Alors, tu connais un peu la répartition, hein, grosso modo
J'ai pas trop regardé en détail, mais grosse partie c'est les États-Unis. Après c'est vraiment éparpillé. Mexico, Taïwan, France, Londres, Inde, c'est vraiment éparpillé partout, quoi.
Génial. Oui, puis, voilà, donc encore une fois, le pouvoir d'Internet, et puis même dans ton cas, dans ton inscription blogueur pro, juste en mettant ma formation sur Internet, ça permet aussi de toucher les francophones du monde entier, y compris les francophones expatriés, comme c'est ton cas, qui sont quand même nombreux. Rien que pour les Français expatriés, il y en a 2,5 millions. C'est dans le monde, c'est quand même énorme, et ça représente plus de francophones que les francophones suisses, par exemple, faut le savoir. Donc, Internet, c'est vraiment aujourd'hui un levier extraordinaire qui permet, avec la même quantité d'efforts qu'il fallait il y a, on va dire, 20 ans, pour avoir un business local, d'avoir un business vraiment mondial et toucher des gens dans des pays que vous auriez jamais imaginé, peut-être même parfois vous aviez même pas entendu parler avant, c'est extraordinaire. On a eu un très bon exemple avec toi. Bon, bah, écoute, merci d'avoir partagé tout ça. On a eu un très bon aperçu de ton parcours et qu'est-ce qui a fait que tu as pu réussir avec ce blog. Alors, deux choses avant de se quitter. D'abord, tu as des projets? Quelle est la suite, à part de choisir une boîte qui va te permettre de travailler sur un projet que tu kiffes? Au niveau de ton blog, tu as d'autres objectifs à venir?
Bah oui, effectivement, là, je considère que pour le blog, ce n'est que le début, puisqu'effectivement, il y a encore plein de formations additionnelles qui peuvent être créées, puisqu'effectivement, là, je réponds juste à un besoin, mais il y en a bien d'autres. Et après, effectivement, d'autres projets à côté du blog, ce serait soit peut-être, en fait, c'est soit aller retourner dans une boîte, ou alors continuer à me former, en fait. Il y a plein de choses que j'ai envie d'apprendre, en fait. Ça peut être dans l'architecture, le jeu vidéo, je sais pas. C'est ça qui est chouette, c'est que quand on nous retire cette pression de devoir aller travailler pour gagner de l'argent, on peut avoir le choix. Enfin, c'est ça qui est chouette.
Exactement. Bah, écoute, merci. Et donc, avant de nous quitter, est-ce que tu as un conseil pour les débutants qui sont encore là à la fin de cette interview, donc qui sont ultra motivés, qui disent waouh, c'est génial, je vais me lancer dans mon blog. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme bon conseil?
Un conseil, ça serait vraiment de choisir un thème qui nous passionne et d'aimer le partager. C'est aimer même à la limite, le plaisir de partager les choses est plus important que même ses compétences. C'est comme tu le dis aussi, c'est qu'on peut partir on peut créer un blog à partir d'une passion, même si on est débutant en fait. Et à partir du moment qu'on est passionné, on peut arriver à justement acquérir ses compétences au long du chemin en fait. Et c'est aimer partager les choses et être fidèle à sa passion quoi.
Excellent. Et j'ai même une question bonus d'ailleurs. Quand tu t'es inscrit à Blogueur Pro, est-ce que tu as eu une hésitation avant de t'inscrire?
Ouais, j'ai mis un an pour m'inscrire.
Ah, donc tu avais vu les lancements de l'année précédente.
Ouais.
Tu t'es dit plus tard et l'année d'après. Alors qu'est-ce qui t'a convaincu entre les deux?
Je pense que c'était le fait que. Enfin, c'est drôle, hein. Mais le fait d'être trop confortable au boulot m'a rendu inconfortable. Parce que c'est pas des choses qui. Perdre sa passion et quotidienne, c'est difficile en fait. Et du coup, oui, c'est ça qui. Je pense que ça a été un trigger.
Un déclencheur.
Un déclencheur qui m'a dit qu'il faut que je poursuive autre chose, quoi. Et la méthode que tu proposes, de Blogueur Pro, effectivement, était en phase avec ce que je recherchais à ce moment-là, ouais.
Excellent. Bah écoute, merci Choutak. Donc pour tous ceux qui veulent aller voir ton blog The Design Sketchbook, il y a le lien dans la description de la vidéo, thedesignsketchbook.com. Et donc il y a tout ce qu'il faut pour apprendre à faire des designs professionnels, à faire des sketchs comme tu dis. Et il y a même un guide gratuit qu'on peut aller télécharger. Bah écoute, merci d'avoir partagé tout ça, puis j'espère que ça va inspirer d'autres personnes. Si vous êtes encore là en train de regarder la vidéo, c'est que vous êtes motivé. Ce que je vous recommande, prenez une chose que vous avez retenue de cette interview, une chose que vous pouvez mettre en place là, dans votre vie, dans votre business, et puis appliquez-la. Ça vous permettra d'être sûr que vous en retirez quelque chose de concret plutôt que juste de la culture générale. Bon, merci encore à toi, Choutak, et puis peut-être qu'on fera une interview l'année prochaine pour suivre un petit peu tes aventures.
Super, merci beaucoup Olivier.
Hey! Merci d'avoir écouté ce MP3 qui est tiré d'une vidéo publiée sur la chaîne YouTube. Donc comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous aimez écouter ces podcasts sur iTunes, eh bien allez tout simplement sur iTunes pour noter cette émission. Voilà, donnez-lui une note si vous l'appréciez. Et puis comme d'habitude, vous pouvez voir les vidéos originales desquelles sont extraits les podcasts en allant sur Olivier. Roland.tv, hein, Olivier-Roland, Roland.tv. Merci d'avoir écouté ce podcast. À demain pour de nouvelles aventures dans le prochain.